Rencontre spirituelle, aujourd'hui, nous avons une émission spéciale consacrée, disons, à l'islam, mais plus particulièrement au soufisme, ce grand courant mystique de l'islam. C'est un courant admirable dont il a déjà été question à Rencontre spirituelle, quand je vous ai parlé de deux grands mystiques soufis, Rumi et Khalaj, comme il faudrait prononcer avec un H aspiré, n'est-ce pas? Ce sont deux émissions qui avaient beaucoup plu à beaucoup de gens, d'autant plus que Rumi est très fameux, a des ouvrages écrits par Eva de Vitré-Meyerowitch à son sujet, et Eva de Vitré-Meyerowitch, je l'avais invitée à Rencontre à la télévision, nous avions fait une émission sur Rumi, justement, ce grand mystique, qui a vécu vers l'an 1200. Nous assistons dans le monde actuellement à une autre sorte d'islam, c'est l'islamisme. Un courant fanatique qui déborde souvent dans la violence, très souvent dans la violence, et qui se répand un peu partout. Et c'est d'une tristesse. C'est terrible. Je voyais dans le journal hier qu'au Timor oriental, qui m'est cher, parce que c'est là qu'habite, n'est-ce pas, le prix Nobel, Monseigneur Bailey, qui essaie de défendre les catholiques du Timor oriental qui sont attaqués constamment par les musulmans de l'Indonésie qui se sont emparés de leur pays. Ils voudraient obtenir la liberté, ils n'y arrivent pas. Et dans les campagnes, les chefs de village partisans de l'indépendance de leur pays catholique sont systématiquement liquidés et même les villages considérés comme trop rétifs sont détruits complètement. C'est selon des informations que l'on obtient auprès des spécialistes, notamment militaires, des questions du Timor-Est. Monseigneur Carlos Bello, j'ai dit Belli, pardon, tout à l'heure c'est Bello, l'évêque de Dili, n'est-ce pas, proteste, mais on n'en fait rien. Ces musulmans fanatiques ne cessent d'attaquer. C'est la même chose au Soudan, dont je vous ai déjà parlé à l'occasion d'une bienheureuse qui a déjà été esclave au Soudan. C'est en Afrique, n'est-ce pas? On voit à Nazareth ces jours-ci que des musulmans fanatiques cherchent à construire une immense mosquée à côté de la basilique chrétienne de Nazareth sur le terrain de stationnement qui devrait être utilisé l'an prochain, à l'occasion de la venue d'une grande quantité de pèlerins. On apprend que l'islam devient la troisième confession en Allemagne. Elle deviendra la première confession en Autriche dans 50 ans, dit-on. Et l'islam, étrangement, se répand ainsi d'une façon qui est vraiment difficile. Et l'Église, pourtant, souhaite en France un dialogue serein avec l'islam. Et les évêques français ont débattu un document qui encourage les catholiques une rencontre avec l'islam. C'était annoncé au mois de novembre dernier. Or, Monseigneur Joseph Doré, archevêque de Strasbourg, que vous avez peut-être vu à l'émission Rencontre, il nous avait donné deux belles entrevues. Il suggère que l'essentiel du dialogue repose sur ce que les chrétiens et les musulmans ont en commun. Il a bien raison. Qu'est-ce que nous avons en commun? C'est la confiance. La foi, l'abandon à Dieu, bon et miséricordieux. Et Monseigneur Doré dit, il faut d'abord parler de cela, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Parler de cela envers et contre tout, et ne parler de tout le reste qu'en fonction de cela. Il dit, nous ne répondrons pas à la violence par la violence. Nous devons avoir une certaine vigilance. En France, on ouvre les églises aux musulmans pour qu'ils puissent y prier le vendredi dans des villages où ils n'ont pas de mosquée. Nous n'avons même pas le droit d'entrer dans une mosquée très facilement. Loin de là, sauf celles qui sont des lieux d'art. Et nous ne pouvons même pas entrer en Arabie Saoudite avec un chapelet, une croix, quoi que ce soit de religieux chrétien. Mais le soufisme est bien différent de tout ça. Le soufisme, c'est un terme qui désigne le mouvement mystique, qui a vu le jour très tôt dans le monde musulman. Oui, très très tôt. Le premier soufi est mort vers 724, je crois. Et l'islam est apparu, disons, vers 630. Et alors, c'est un mouvement qui a connu dans le monde musulman le soufisme des manifestations de toutes sortes, dont certaines se sont situées franchement en dehors de la doctrine définie par les théologiens musulmans, surtout sunnites, qui forment 90% de l'islam. Les 10% d'autres, à peu près, sont des chiites que l'on retrouve surtout un petit peu en Irak, mais surtout en Iran. Et tout en étant combattu, le soufisme, par certains, aujourd'hui, à l'époque moderne, le soufisme a rencontré un succès quand même grandissant dans certaines régions périphériques peut-être, est tardivement converti à l'islam. Et il y a des livres aujourd'hui qui paraissent sur le soufisme qui sont absolument passionnants. Un manuel du soufisme traditionnel que j'ai lu du docteur Javad Nurbakhsh. C'est remarquable. Dans la taverne de la ruine, c'est un curieux nom, c'est aux éditions du Relié. C'est une somme spirituelle. C'est un manuel pratique, c'est un livre facile à lire. C'est que ce docteur Javad Nurbakhsh, c'est l'actuel maître de l'ordre Nématollahide des Soufis, c'est un ordre fondé au 14e siècle. Il est né en 1926, voyez-vous, et il est d'une clarté absolument admirable. Et s'il est un des aspects peu connus de l'histoire de ces Arabes, c'est la dimension, disons, chrétienne pré-islamique. On parle jamais de ça, je vous en glisse un mot avant de passer au soufisme. Il y a certains extraits du Nouveau Testament, puis surtout les écrits des docteurs de l'Église, qui attestent l'existence du christianisme parmi les Arabes de Syrie, Palestine et d'Arabie. Je donne des exemples. Il y avait 20 évêques en Arabie qui ont participé au concile de Chalcédoine en 451, donc à peu près un peu moins de 200 ans avant l'apparition de l'islam. Juste avant l'an 500, en 494, un arabe qui s'appelait Saint Élie Ier a été proclamé patriarche de Jérusalem, métropole à laquelle a été rattachée la province d'Arabie. En 518, la province d'Arabie était une province chrétienne. Il n'y avait pas de musulmans encore. 518, c'est l'année de la mort de ce saint Élie Ier dont je pourrais vous parler un jour. Les églises de la contrée ont eu leur clergé, leurs martyrs et leurs mystiques, qui vont marquer profondément la piété puis la théologie islamique plus tard. Parmi eux, il y a Isaac le Syrien, qui est né au 7e siècle au moment de l'apparition de l'islam. Il est né à Beit Qatarié, c'est l'émirat actuel du Qatar. Il a été consacré évêque, imaginez, de Ninive, ça vous rappelle Jonas, Ninive, hein, en Irak, avant de se vouer à la vie monastique jusqu'à sa mort. Il a inspiré aux Bédouins une vénération assidue. Il a influencé toutes sortes d'auteurs chrétiens et musulmans. Il y a eu une influence sur les musulmans qui commençaient. L'œuvre spirituelle d'Isaac le Syrien, ses discours, ses lettres, ses sentences que l'on connaît, reflète une expérience de l'existence ici-bas perçue comme une anticipation de la vie céleste. C'est bien le sentiment que tous les chrétiens doivent avoir. Hein? L'expérience de notre existence ici-bas, c'est une anticipation de la vie céleste. Jésus le dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est-à-dire que nous avons déjà cette vie éternelle en nous, qui est comme une anticipation de la vie éternelle que nous aurons au ciel. Trois étapes se sont dans cette vie, dit Isaac le Syrien. Une étape corporelle, une étape psychique, puis une étape spirituelle qui élève l'homme à travers, quoi? Le jeûne, les veilles et la psalmodie, de la vie domestique à l'Éden spirituel, dit-il. C'est une méditation d'une telle densité qui nous a fourni Isaac le Syrien, qu'elle transfigure le geste le plus trivial en signe de la présence divine. Et on retrouve ça chez les soufis. L'œuvre, en somme, de ce nestorien, car il était chrétien nestorien, comme il y en avait beaucoup à l'époque, ce sont des chrétiens, très près des catholiques, mais qui croient qu'il y a deux personnes en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés par le Concile d'Éphèse en 431, où on a défini qu'il n'y avait qu'une seule personne en Jésus-Christ. Deux natures, la nature divine, la nature humaine. Mais ce nestorien a fait, en somme, une immense méditation de sa vie, une méditation universelle par sa portée, qui parle et qui répond encore aujourd'hui à celui qui la consulte. Et l'influence du monachisme chrétien sur les Arabes a eu une emprise si forte que l'islam a limité à 4 mois les périodes de solitude et de continence pour prévenir de célibat, de chasteté totale, pour prévenir toute désertion spirituelle hors de l'umma, comme on dit, c'est-à-dire de la communauté musulmane. La communauté musulmane, ça se dit umma. Et la quête intérieure d'Isaac le Syrien, et aussi d'Éphrem de Nisib, puis de Siméon, le stylite dont je vous ai déjà parlé, je lui ai consacré une émission il n'y a pas si longtemps, mais ça se perpétue dans le soufisme, ce magnifique ascétisme de l'islam, cette merveille qu'est le soufisme. Vous savez que on pourrait dire en commençant qu'il faut dire ceci, que beaucoup de penseurs musulmans pensent que le Coran est d'abord et avant tout la révélation d'une loi. Ils insistent beaucoup là-dessus, la loi. Or, il y a bien d'autres choses dans le Coran. Tout cet aspect mystique que ces musulmans soufis ont trouvé, recherchent, et dont ils vivent. Beaucoup de musulmans croient que l'islam est à la fois un pouvoir temporel puis une religion. En somme, que la communauté du prophète Mohammed, ou Mahomet si vous voulez, est une communauté de juste milieu, c'est-à-dire qui réalise l'équilibre entre les devoirs du culte rendu à Dieu puis les obligations de la vie d'ici-bas concernant les rapports entre les hommes. Alors, ils ont considéré que les mystiques exagèrent dans le sens d'une pure spiritualité et que ces mystiques demandent à l'homme de vouloir faire plus que ce que Dieu demande. En somme, que les mystiques musulmans exagèrent, croit-il. C'est ainsi que la mystique musulmane a été marginalisée et plusieurs de ses adeptes condamnés, comme Rumi, à l'âge, parfois même mis à mort, comme Rumi, pour des raisons religieuses et politiques étroitement mêlées. C'est même aussi le cas de Halaj, dont je vous ai parlé le 27 mars l'an dernier. Cette attitude à l'égard de la mystique a encore inspiré la réflexion des réformateurs musulmans des débuts du 20e siècle. Ils ont commencé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ils ont rejeté ces mystiques. Et certains spécialistes de l'islam, qu'on appelle des islamologues, ont par la suite pensé que les origines du soufisme devaient être cherchées en dehors de l'islam, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure. Ils ont supposé les uns des influences chrétiennes, avec raison d'ailleurs, les autres des influences indiennes ou encore gnostiques. Et c'est le danger de tomber dans le gnosticisme. Il y a des articles extrêmement intéressants qui sont publiés dans des revues catholiques comme La Vie spirituelle, Quête spirituelle et gnose dans l'islam, mettons, dans La Vie spirituelle. C'est un numéro de septembre-octobre 1976. Un petit article extrêmement intéressant. Mais j'en ai beaucoup d'autres dans La Vie spirituelle. C'est plein d'articles dans les revues catholiques sur l'islam. Et nous avons même dans les cahiers évangiles. Oui, les cahiers évangiles qui sont extrêmement intéressants. J'espère que vous connaissez ça. Le cahier 48, c'est un chrétien lit le Coran. Et c'est très bien fait dans la perspective un peu soufie. Et aussi le Coran, texte choisi en rapport avec la Bible, toujours dans les cahiers évangiles. C'est un supplément paru il y a 15 ans. Ça se trouve sur le marché. À la télévision, n'est-ce pas, puis même dans nos villes, comme à Montréal en particulier, nous sommes tous les jours confrontés, en particulier moi j'habite dans l'Ouest, sommes confrontés à l'islam. On voit tellement de femmes voilées, j'en vois même des fois qui sont complètement voilées, on ne voit que leurs yeux. C'est rare, mais il y en a quelques-unes. C'est la seconde religion mondiale, après le christianisme. Les chrétiens sont plus d'un milliard et demi au total. Eux sont environ un milliard. Et c'est la quantité. C'est pas le nombre qui compte nécessairement. Faut faire attention à nous, hein. Et c'est un défi qui nous est lancé. Et je crois que nous ne savons pas assez ce que c'est que notre propre foi. C'est ce que nous essayons de développer ici à Radio Ville-Marie. Vous faire comprendre quelle est votre foi afin que vous puissiez être solide devant tous les gens qui ont des religions différentes, afin de pouvoir calmement, très calmement, les assister, les aider aux besoins et répondre à leurs questions et peut-être les amener à partager la joie de notre foi. Parce qu'il y a une montée des intolérances. Et est-ce qu'on peut toujours vivre dans des intolérances? Vous voyez la haine qui existe au Kosovo actuellement. C'est terrible. Cette haine, ça n'est rien d'humain, rien de chrétien. Il faudrait que nous cherchions en profondeur notre propre identité. Je prends le biais du soufisme aujourd'hui afin de faire comprendre le plus bel aspect de l'islam. Et espérer que les musulmans, ceux qui m'écoutent, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, soient sympathiques à l'égard de ces musulmans. Moi, c'est un musulman soufi de mes amis. Je lui disais l'autre jour en voiture avec lui, j'ai dit, il faut que je passe au Carmel chercher un livre sur Jacques Maritain. Je prépare une émission et j'ai commandé un beau livre sur Jacques Maritain. Nous allons au Carmel. Ah, il dit, je suis déjà passé devant, je me demandais ce que c'était. Mais j'ai dit, venez, venez. Alors, il est entré, puis il a été émerveillé par la gentillesse des sœurs Tourières. Les sœurs qui nous reçoivent à l'entrée. Il a acheté deux livres, un sur Saint Jean de la Croix, un autre sur Saint Thérèse d'Avila. Et puis, je lui ai dit, voulez-vous voir la chapelle? Il dit, oui, avec plaisir. Alors, en entrant à la chapelle, il s'est jeté à genoux, puis s'est incliné comme font les musulmans. Il ne savait peut-être pas qu'il adorait le Très Saint Sacrement. Mais dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur Jésus, parle à son cœur. Oh, parle-lui. Et chose étonnante, il est resté un bon 10 minutes en prière. Et en sortant, il a demandé à la religieuse, il m'avait demandé tout d'abord, je lui ai dit, il faut demander à la religieuse, s'il pouvait venir faire son oraison tous les jours, méditer là. Parce qu'il trouvait que cet endroit silencieux était exceptionnel. Et c'est là qu'il va faire son oraison, très souvent, cet homme très riche. Très généreux aussi. Comme quoi on peut établir des liens. Il faut les établir. Hein? Nous ne pouvons pas rester comme ça, à couteau tiré. Il faut faire un peu comme Louis Massignon, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, ce grand chrétien qui s'est penché sur l'islam et qui a beaucoup étudié l'islam au point d'en devenir un très, très, très grand spécialiste. Il s'est élevé avec vigueur contre certains points de vue. Parce qu'à ses yeux, la mystique est fondamentalement, voire essentiellement, musulmane chez les soufis. Il s'est beaucoup étudié les soufis, Louis Massignon. Et pour essayer de voir clair, on pourrait peut-être examiner, très brièvement, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais quelques mots dans le vocabulaire qui est à la base de l'expression des expériences spirituelles des mystiques musulmans. Ils ont parlé avec des termes techniques, hein, qui leur étaient propres, comme nos mystiques l'ont fait aussi dans l'Église catholique. Ils le font toujours. Mais cela ne signifie pas qu'ils les ont inventés, ces termes-là. En réalité, ces termes sont presque tous tirés du Coran et tirés de racines coraniques par dérivation. Ils servent surtout à désigner des stations, des états, si vous voulez, des moments dans la vie qu'on pourrait examiner. Prenons des exemples. En évitant les complications, je veux pas être compliqué, là, des complications savantes, ça m'ennuie. Je prends le mot « taouba ». Ce mot, employé 5 fois dans le Coran, signifie le repentir. Mais la racine, taba, a le sens de revenir, comme l'enfant prodigue dans l'évangile qui revient vers son père. La taba sera le retour à Dieu, mais comme dans le Coran, cette racine est appliquée à la fois à l'homme et à Dieu, ben les mystiques, eux autres, c'est très beau, ça considère que si l'homme se tourne vers Dieu par le repentir, c'est parce que Dieu se tourne vers lui, puisqu'il est miséricordieux et qu'il pardonne, ainsi qu'il le dit lui-même dans son livre. Alors on retrouve ça dans la parabole de l'enfant prodigue. Le père va vers son fils, il l'attend tous les jours, et le jour où il voit son fils, il court vers lui, puis il le prend dans ses bras avant qu'il ne demande même pardon. Alors c'est la même mystique. Nous sommes tellement frères que c'est dommage qu'on ne se comprenne pas davantage. Et le mot sabre, S-A-B-R, en français. La patience dans les épreuves. Ça se trouve 15 fois en divers versets. Chercher secours dans la patience et la prière, dit-on. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la voie ascendante? C'est être de ceux qui se conseillent mutuellement la patience et la miséricorde. Il y a un autre texte dans le Coran qui dit « Sois patient ». Renseignez ça à nos frères musulmans enragés, là. Sois patient. Ta patience ne vient que par Dieu. Comme pour le repentir, Dieu prend l'initiative. Hein? C'est la même chose. L'adjectif sabir, patient, est fréquent. Dieu aime ceux qui sont patients. Et ainsi de suite. Hein? Il y a beaucoup de termes comme ça. D'autres termes coraniques offrent la même particularité. Hein? Dieu dit, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ça me rappelle des paroles qui étaient dans l'église Saint-Jacques avant qu'on la détruise. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Nous sommes si près les uns des autres. D'autres valeurs spirituelles fondamentales dans la mystique soufie sont également une origine coranique. C'est le cas de l'espérance, de l'humilité, de la certitude, de l'amour. Tous ces termes sont pris dans le sens spirituel que le texte autorise et qui est simplement accentué dans le soufisme. D'autres termes chez les soufis, pris dans le Coran, selon leur signification ordinaire, reçoivent un sens nouveau qui leur donne une valeur sur le plan de la vie mystique. Et ces gens-là vivent une vie mystique intense. Les vrais, les honnêtes, les vrais de vrais, là. Tel est le cas d'un mot comme la peur ou la tristesse, dont les emplois vont souvent de pair, la peur et la tristesse. Par exemple, il est dit des Juifs et des chrétiens qui croient en Dieu et au jugement et qui font leurs bonnes œuvres, qu'au dernier jour, aucune peur ne pèsera sur eux, ils ne seront pas dans la tristesse. Mais par contre, dans le Coran, on trouve des choses pénibles, terribles même. Je prends dans la 9e sourate, au verset 30, des choses incroyables. Les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Mais alors que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides. Comment peut-on écrire des choses comme ça dans un livre saint? Je ne veux pas me faire tuer, là, mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais heureusement, il y a d'autres versets qui disent le contraire. Heureusement, heureusement, heureusement. Des livres où on parle de nous en termes fraternels. Des versets où on parle de nous en termes fraternels. Alors, je ne veux pas passer en revue les termes techniques qui aident les soufis à atteindre des paliers du mysticisme. Je vous ai donné quelques petits exemples. Il faut cependant noter que ce sont là des termes, parmi les termes fondamentaux, qu'à partir d'eux, les soufis ont souvent introduit des termes secondaires afin de marquer des nuances dans la signification des premiers termes. Et on peut terminer par des termes comme voir, qu'on traduit généralement par d'autres choses. Et c'est très, on dit, mettons, oui, l'homme dépasse toute mesure du fait qu'il se voit lui-même et se trouve riche. Or, Dieu seul est riche, car il n'a besoin de rien ni de personne. Oh, vous, les hommes, vous êtes les pauvres, ayant besoin de Dieu, et Dieu est le riche, digne de louange. De là vient la valeur mystique de la pauvreté chez eux, et du rejet de tout ce par quoi l'homme se donne de l'importance. Et d'une façon générale, se voir, se faire voir, voilà ce qui jette un voile entre l'homme et Dieu. Car c'est par là qu'on se complaît en soi-même, et qu'on pense se suffire et qu'on se croit indépendant. Et c'est une des parts importantes du départ de l'enseignement soufi. Un des plus beaux livres sur le soufisme qui est paru il n'y a pas bien longtemps, La Table Ronde, grande maison d'édition, La Table Ronde, que l'on connaît, n'est-ce pas? C'est paru en 1996. C'est le soufisme cœur de l'islam. C'est suivi d'extraits du divan, ou du diwan, si on dit le divan en général en français. C'est un divan, c'est un... mon Dieu, une réunion de textes chez les musulmans. Hein. Ce sont des textes du Cheikh Hamed Ben Mustafa Al-Alaoui, avec une préface du père Christian Delorme, une très très belle préface. Le livre, l'auteur de Le Soufisme Cœur de l'Islam, c'est le Cheikh Khaled Bentounes. Bentounes, B-E-N-T-O-U-N-E-S. Aux éditions de La Table Ronde. C'est un excellent livre. Et le père Christian Delorme dit bien au début, dans sa préface, je pourrais vous lire au complet tellement c'est intéressant, mais je lis ce passage en présentant avec simplicité, mais aussi avec toute sa profondeur, une partie de l'expérience et de l'enseignement qu'il transmet d'habitude aux affiliés de sa confrérie. Cheikh Khaled rend un grand service à l'islam et à la vérité. Car il donne à connaître, écoutez bien, une mystique d'une richesse spirituelle exceptionnelle que beaucoup de nos contemporains ne soupçonnent pas, imprégnés que nous sommes des images de violence qui traversent malheureusement en ce temps le monde musulman. Cette mystique aux tendances diverses est apparue parfois comme suspecte aux yeux des milieux les plus orthodoxes de l'islam, mais en même temps elle a inspiré à l'islam. Ses plus belles prières, ses plus beaux chants, ses plus beaux poèmes, ce sont les soufis qui ont fait pénétrer le message islamique dans une grande partie du monde musulman, de l'Inde aux Balkans, en passant par l'Afrique sahélienne. Et si aujourd'hui, il devait disparaître, notamment sous les coups que cherchent à lui porter des courants intégristes et ou islamistes, ce serait une grande mutilation pour l'islam et pour toute la recherche religieuse de l'humanité. Le prêtre catholique que je suis ne saurait s'abandonner au syncrétisme. Il n'est pas question pour lui d'unir l'islam puis le catholicisme puis penser que ça pourrait faire une seule religion. Comme il dit, ce sont des branches issues avec le judaïsme du même arbre abrahamique, ce qui pourrait être légèrement discutable. Christianisme et islam se séparent profondément sur l'approche de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Il dit d'ailleurs, bon, je vous cite un beau passage que j'ai beaucoup aimé, page 187, non pas 187, c'est page 183. Le Tassawouf, c'est la mystique, si vous voulez, est une voie qui conduit l'homme vers l'unité, avec un U majuscule. Dieu est à la fois le tout, l'autre et l'inconnaissable. C'est l'homme qui crée la dualité en faisant de lui une entité séparée de Dieu. En réalité, il n'a jamais été séparé de nous. C'est notre ignorance et notre orgueil qui masquent sa présence. Ça rejoint ce que je vous dis toujours, que Dieu est en nous, et nous sommes en Dieu, et nous sommes inséparables. Nous ne sommes pas noyés en Dieu pour être Dieu, mais nous sommes noyés en Dieu pour partager la vie de Dieu. C'est ce qu'il retrouve. Il y a de beaux livres aussi du père Michel Lelon. Le don qu'il vous a fait, ce sont des textes du Coran et de la Bible parus au Centurion. Il y a aussi l'Encyclopédia Universalis qui a publié en volume toutes sortes d'articles de l'Encyclopédie Universaliste, qui est énorme, réunis en un seul volume, là, Dictionnaire de l'Islam, Religion et Civilisation. C'est énorme. Oh, ça a bien près de 1000 pages. Mais c'est très, très pratique. Vous avez des renseignements sur tout ce que vous voulez savoir à peu près au sujet de l'islam. Mais il y a tellement d'autres choses. Et j'aimerais, en passant, vous recommander un livre d'un ami, Jésus dans la Bible et le Coran, par Fadlallah Boutros, paru chez François-Xavier de Guibert, ce grand éditeur catholique de Paris. Le Messie, le Verbe de Dieu, c'est une lettre à un ami. Jésus dans la Bible et le Coran, c'est pas très long à lire, et ça vous intéressera beaucoup, je crois, pour affermir votre foi catholique au contact de l'islam, et au besoin, vous pourrez lire de lui aussi, il a traduit de l'arabe, de Nahed Mahmoud Metwali, ma rencontre avec le Christ, c'est la conversion d'une musulmane égyptienne au catholicisme, au christianisme. C'est une aventure qui se lit, c'est un roman, toujours chez François-Xavier de Guibert. Ma rencontre avec le Christ, Nahed Mahmoud Metwali. Peu importe, demandez ma rencontre avec le Christ, paru chez François-Xavier de Guibert. C'est plus simple, parce que ces noms nous semblent souvent, moi du moins mes oreilles, un peu compliqué. Le mal fondamental qu'il faut fuir chez les soufis à tout prix, là, auquel les mystiques opposent le seul remède qu'est la sincérité, mais qui a ici le sens précis d'authenticité de soi-même, c'est que il faut vraiment éviter de jeter un voile entre l'homme et Dieu. Il faut être sincère, ouvrir son cœur. Nous verrons que l'homme ne peut arriver à cette authenticité sans le secours de Dieu, qui se fait connaître, d'après les soufis, de telle sorte que dans cette connaissance, l'homme se découvre tel que son Seigneur le veut, le crée, le soutient dans son existence et dans ses actions par sa présence active, que nous appelons la grâce souvent, mais c'est vrai, c'est sa présence active, c'est l'Esprit Saint pour nous. Alors, Dieu le soutient, le soufi, dans son existence, et dans ses actions, par sa présence active. Et certains soufis diront même par son amour. C'est tout près de nous, c'est nous, il parle comme nous. Un soufi, Al-Souzi, disait, si tu vois dans ta sincérité la sincérité, ta sincérité a besoin de sincérité. En somme, il faut toujours se croire insincère, non sincère, pour développer notre sincérité. Toujours se purifier, aller de l'avant, marcher. Parvenu à ce terme, l'homme jouit de la paix. Il est écrit dans le Coran, « ô toi âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, agréante et agréée. » Que c'est beau, hein? Alors les maîtres du soufisme distinguent trois étapes à parcourir dans l'itinéraire vers Dieu. C'est celle des novices, les mouridines, celle des progressants, les salikines, et celle des parfaits qui ont l'expérience de la réalité, les muhakkikine. Ces trois étapes définissent le cheminement mystique. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans nos monastères les plus vrais. Et chez nos laïcs qui aspirent à la sainteté. Nos religieux, nos religieuses aussi. Les prêtres. Au départ, les aspirants doivent avoir un chèque. Un chèque, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit un très beau livre. Qui les instruit, un chèque qui les instruit, qui les guide. Et ce maître, ce chèque, a lui-même reçu une formation d'un autre. Et ainsi, on remonte, selon une succession d'autorités spirituelles qu'on appelle isnad initiatique, jusqu'à un premier maître, un saint. Un saint. Un compagnon du prophète ou le prophète lui-même, dit-on. Et on consultera sur ce point Louis Massignon dans son fameux livre, là, au titre interminable, là, qui commence par le mot « essai ». J'oublie toujours le titre de ce livre, je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est extrêmement long. C'est « Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane » paru à Paris en 1954. Bon. Un nishnad initiatique, là, surtout à partir du 10e et du 11e siècle, définit une école. Il y a des écoles, et chacune a des caractères qui la distinguent des autres. Comme on a dans le christianisme, il y a une école carmélitaine, une école bénédictine, une école dominicaine, une école bérulienne, dont je vous ai déjà parlé, du cardinal de Bérulle, etc. Il y a toutes les écoles mystiques. Alors chacune, donc, chez les soufis, a des caractères qui la distingue des autres, soit sur des points de détail, soit sur des conceptions plus générales. Et les mystiques s'accordent à reconnaître trois niveaux de vie, celui de l'observance de la loi, la charia, la terrible charia qui s'exerce parfois, comme au Soudan, sur les chrétiens eux-mêmes, on peut leur couper la main. Quelle horreur. Mon Dieu, en finirons-nous avec ces aspects d'une religion si belle qui a développé des choses si terribles. Donc, celui de l'observance de la loi, celui de l'engagement sur la voie, avec un V majuscule, V-O-I-E. Il y a celui de l'atteinte de la réalité véritable, la réalité, avec un R majuscule, Dieu. Il y a également trois niveaux correspondants de l'être humain, l'âme, ensuite, on va plus loin, le cœur, puis ensuite, encore plus loin, le secret intérieur, ou esprit. Et le cœur est parfois appelé esprit. En passant d'un niveau à un autre plus profond, le croyant passe d'une connaissance extérieure de Dieu, l'apparent, quoi, à une expérience de plus en plus intérieure. Ce qui fait que l'obéissance matérielle à la lettre de la loi se spiritualise, sans d'ailleurs vraiment disparaître. Bon, ils vont observer certaines lois de ne pas boire d'alcool, de ne pas manger de porc, mais ils vont insister davantage sur la vie mystique. Par suite, le texte du Coran se révèle avec deux significations complémentaires, l'une apparente, l'autre cachée, qui se découvre progressivement sur la voie, car Dieu lui-même est l'apparent et le caché. Hein? Dieu est l'apparent et le caché, Dieu caché. Hein? Nous en parlons souvent dans notre mystique. Le Coran parle de plusieurs âmes. L'âme qui commande le mal, l'âme qui censure, l'âme inspirée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme apaisée aussi. Il est évident que la deuxième, l'âme qui censure, l'âme qui essaie d'enlever de sa vie les choses, les mauvais livres, les mauvaises images, les mauvaises choses, les mauvais amis, qui censure, quoi. Puis la troisième, l'âme inspirée, l'âme qui cherche, qui se tourne vers Dieu. Mais ça fait passer de la première, l'âme qui commande le mal, qui dit au mal, arrière. Et qui se rend à la dernière, l'âme apaisée, car on trouve la paix. Vous savez, sur la médaille de Saint-Benoît, on retrouve ça, « Vade retro Satanas », c'est des lettres qui indiquent « Recule Satan ». Et le fondateur du monachisme, il y a 1500 ans, avant même l'islam, a établi comme mot qui symbolise toute la vie bénédictine et la vie monastique à travers les siècles, le mot « Pax Pei », cette paix. La paix que trouve le moine en pratiquant ces choses-là. L'âme qui commande le mal, va des rétro Satanas, recule-toi, Satan. L'âme qui censure, se retire dans un monastère. L'âme inspirée, qui prie, qui médite. L'âme apaisée, qui est en Dieu. Nous sommes très près. La vie du cœur ne se déroule pas dans un temps continu, mais dans une succession de moments, disent les musulmans. Des moments discontinus. Et ici, il n'y a plus de place pour l'effort. L'homme ne peut plus rien acquérir, ni pour son bien, ni pour sa perte, à la différence de ce qui a lieu pour l'âme qui obéit ou désobéit à la loi. Ils disent que pour le cœur, tout est don. Il est le lieu des états qui sont purement donnés à des moments privilégiés. Pour les soufis, un moment de grâce, c'est ce qui les frappe soudainement dans la disposition que Dieu prend pour eux, à l'exclusion de ce qu'ils choisiraient pour eux-mêmes. On a dit aussi que le moment de grâce là, est ce en quoi on est. Si on est dans la joie, c'est la joie. Car tout est grâce, tous les moments sont grâce. On rejoint le catholicisme. Si on est dans la tristesse, c'est la tristesse. Et c'est une épreuve, quoi. L'homme est entièrement pris dans son moment et à l'abri de toute influence extérieure. Parce qu'il est en Dieu, il est avec Dieu. Il y a un troisième niveau, hein. C'est le secret intime. Qui est le lieu du dévoilement. L'esprit, le lieu de l'amour. Cœur, le lieu de la connaissance mystique. Ce qui est sûr, c'est que si les états qui sont momentanés durent, Il se produit pour celui qui les éprouve d'autres états, d'un degré supérieur, des états d'état, comme ils disent, ils appellent ça comme ça, disons des sortes de touches divines instantanées, qui, si elles viennent à durer comme les états antérieurs, sont à leur tour dépassées par des états plus élevés encore, et c'est ce qu'on retrouve chez tous nos grands mystiques, c'est ce que racontent nos grands saints, c'est ce que racontent nos grands livres, c'est ce que nous vivons, nous aussi, chrétiens. Le prophète Mahomet a dit « Un voile tombe sur mon cœur tant que je n'ai pas demandé pardon à Dieu 70 fois par jour. » Faudrait dire ça à tous ces islamistes qui tuent et qui massacrent. Que leur prophète a dit « Un voile tombe sur mon cœur tant que je n'ai pas demandé pardon à Dieu 70 fois par jour. » Cela signifie qu'il était, par rapport à ses états, dans une perpétuelle ascension. Aussi, quand il était élevé à un état supérieur, il lui arrivait, dit-on chez les soufis, de voir celui qu'il avait quitté, et il le considérait comme un voile léger par rapport au point où il était parvenu, et ainsi, au niveau le plus profond de son être, l'homme assiste, grâce au dynamisme ascendant, à un dévoilement de la richesse illimitée de Dieu en ses dons. Et là, la richesse des beautés de Dieu l'envahit. Alors, en découvrant qu'il n'est rien en dehors de ses dons, des dons divins, il découvre, le soufi, comme nous aussi, ce qu'il est dans l'authenticité de son être. Et ainsi se vérifie l'idée que celui qui connaît son âme connaît son Seigneur, puisqu'on ne peut se connaître soi-même qu'en connaissant son Dieu. J'espère que ça vous égare pas tout ça, mais c'est si beau, c'est si beau, c'est à pleurer de penser qu'on vit si peu ces choses magnifiques. Alors, passons par l'Afghanistan maintenant, où se déroulent des choses épouvantables encore. Prions pour tous ces musulmans qui ne comprennent pas l'essentiel de leur foi. Dieu, dit le Coran, est transcendant. Et il n'y a rien qui lui soit semblable. Par conséquent, nous disons la même chose. Par conséquent, il ne peut y avoir pour un musulman d'union à Dieu au sens du mot Ittihad, qui impliquerait que l'homme ne fait plus qu'un avec Dieu, ou en termes philosophiques, que l'essence humaine est unie à l'essence divine. Il ne faut donc pas entendre la relation comme un anéantissement total de soi, suivi d'une fusion avec Dieu, comme on le trouve chez les hindouistes. Sans doute, les mystiques emploient-ils des termes très forts. Ainsi, Abou Ali al-Dakak, qui prend toujours soin de répartir les expériences spirituelles sur les trois niveaux de l'être humain, disait, écoutez bien ça, « La recherche extatique, ou mystique si vous voulez, extatique, entraîne nécessairement l'absorption du fidèle, l'émotion extatique, sa submersion, et au dernier degré, l'extase existentielle entraîne sa consomption. » Néanmoins, ces termes ne s'appliquent pas à l'essence de l'homme, mais à sa conscience de soi. Alors, on est très, très, très près de la disparition de notre être en Dieu, tellement l'union est forte. Mais, chez le musulman comme chez le chrétien, notre personne unie à Dieu demeure elle-même. Certains soufis se servent du mot « wuzul » qui signifie « conjonction » en précisant qu'il s'agit d'un dépouillement total de soi. Et on retrouve dans des mots plus simples, dans le c'est très beau livre que je vous ai mentionné au début de l'émission, dans « La taverne de la ruine », manuel du soufisme traditionnel, publié aux éditions du Relier. Vous avez au tout début ce texte, « L'amour est au-delà des mots et des sens. Il possède son propre langage, ses propres valeurs. Que pourrais-je dire de l'amour face à des cœurs insensibles? Mieux vaudrait, dans ce cas, s'inscrire dans le silence. Celui dont le cœur a eu vent de l'univers des amoureux n'entend que le murmure incessant de l'amour. L'amour possède sa propre langue qu'ignore les gens ordinaires. Laissons-les donc dans leur monde, fait de verbiage et de chagrin. Celui qui refuse l'amour ne peut comprendre ses propos. Son cœur ignorant reste de pierre, froid, endormi. Nul besoin de controverse dans la voie de l'amour, car cela est l'apanage des bavards et des inconsistants. Ô Nurbakhsh, l'amour est la source de tes paroles, puisse-t-elle arriver jusqu'au cœur lucide? Et tout ce livre traite justement de l'amour. Il est dit dans la langue persane, les Iraniens, quoi. L'amour, le mot « esk », vient du mot « esqué » désignant une espèce de lierre qui s'enroule autour des arbres et se nourrit de leur sève jusqu'à les dessécher entièrement. Bien, l'amour profane dessèche l'arbre de vie de celui qui en est atteint. Mais l'amour spirituel, lui, brûle les racines de l'être transitoire de l'amoureux et l'amène à mourir à lui-même. Sur le plan étymologique, « esk » traduit « l'excès et la démesure de l'amour », mais aussi la dévotion et la bonté absolue. L'amour constitue le niveau le plus élevé de l'affection, car il est plus pur et plus subtil. Et l'affection se distingue de la connaissance, car toute affection contient de la connaissance, alors que la connaissance ne comporte pas nécessairement de l'affection. Dans l'amour instinctif, l'amoureux ne cherche qu'à satisfaire ses propres désirs. Mais dans l'amour spirituel, tout en cherchant à répondre à ses propres désirs, il prend en compte les désirs de l'autre. Dans l'amour divin, l'amoureux veut le bien-aimé. Pour le bien-aimé. Et là, il cite Rumi, dont je vous ai déjà parlé. Voici le texte de Rumi, très court. On pourrait terminer là-dessus. Il est la joie et la peine des amoureux. Il est leur seule et unique récompense. Si le regard de l'amoureux est attiré par tout autre que le bien-aimé, on croirait entendre Thérèse Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, et tant d'autres mystiques dont je vous ai parlé, Tolère, etc. Si le regard de l'amoureux est attiré par tout autre que le bien-aimé, c'est que son amour n'est pas véritable. L'amour est une flamme qui, en s'élevant, consume tout ce qui est autre que le bien-aimé. C'est Rumi. C'est très délicat. Quand on dit que ça consume tout, c'est que ça ramène tout dans un ordre d'une immense tendresse. Et le mystique soufi, comme le mystique chrétien, atteint une extase qui lui fait embrasser l'univers entier, comme on le trouve chez Teilhard de Chardin. Et l'univers entier devient un sujet d'acclamation que l'on adresse à Dieu, l'auteur de cet univers. Et nous sommes de plus en plus émerveillés de ce que nous sommes, créatures de Dieu si petites et si simples, mais si extraordinaires, que nous pouvons atteindre à des élans de prière, de joie, de foi, qui nous transportent dans un bonheur très lointain de ce que sera notre bonheur au ciel. Dans l'évangile d'aujourd'hui à la messe, Jésus fait ce discours sur le pain de vie. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Oui, car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croient en lui obtiennent la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Nos religions se complètent, et combien je souhaite que les musulmans aiment de plus en plus Issa, comme ils l'appellent, Jésus, qu'ils le vénèrent et qu'ils le lisent, et qu'ils lisent de plus en plus son beau message qui est écrit dans le Nouveau Testament.